Je vous présente le dessinateur Charme.
Bonjour.
De son vrai nom, Stéphane Charbonnier. Mais ça, ça reste entre nous, de toute façon. Donc, vous avez entendu les fortes paroles de Guillaume Doisy, qui vous a démontré que quand même, que le dessin de presse ou la caricature, effectivement, depuis des années que je travaille dessus, j'ai du mal à on est assez nombreux à on n'arrive pas à trouver une définition du terme, enfin du métier. Donc on va parler de caricature, ça englobe pas mal de choses. Donc, je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs avec ces histoires de caricature qui me perturbent. Donc on va, avec les fortes paroles de Guillaume Doisy, qui vous a montré quand même que c'est un métier qui vient de loin, qui s'est renouvelé, qui s'est régénéré à chaque fois qu'il y a eu des périodes politiques assez fortes, et qui malgré tout, même malgré la crise de la presse, malgré... La crise des vocations aussi, parce que l'un étant lié à l'autre, continue malgré tout. Parmi les dessinateurs d'aujourd'hui, on a quand même des signatures comme Cabu, on a des signatures comme Willem, comme Ciné, enfin, comme Volinsky. Il y a quand même une large représentation de dessinateurs caricaturistes de qualité. Et parmi ces dessinateurs, il y a une nouvelle génération, parce que ce n'est pas tout à fait la même, elle arrive maintenant avec les nouveaux supports, qui est une génération de dessinateurs qui maintenant est dans la quarantaine quand même, qui sont Charb, Luce, Rhys, Tinius, Faujour, enfin, qui est dans la salle, que vous verrez tout à l'heure. Donc c'était intéressant, à partir du moment où on voulait évoquer l'avenir du dessin de presse, de voir déjà comment on devenait dessinateur de presse. C'est-à-dire que... On voit toujours l'aspect soit graphique, soit ludique du dessin, mais derrière, il y a quand même un métier, c'est-à-dire que c'est des gens qui réfléchissent, qui ont eu un apprentissage, même si beaucoup sont autodidactes. C'est quand même un métier, et c'est intéressant de voir comment des jeunes dessinateurs envisageaient justement l'avenir du dessin de presse. Donc à travers l'entretien avec Charme, on va essayer de voir comment naît une vocation, comment naît un dessinateur de presse et quelles sont les questions qui se posent par rapport au dessin aujourd'hui et par rapport à son métier. Donc voilà. Alors, j'ai déjà dit qu'il était rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Il travaille
adjoint.
Sur beaucoup de journaux. Hein.
Juste adjoint.
Pardon ? Ah oui, adjoint. Je fais chaque fois l'erreur, mais c'est prémonitoire, je pense. Donc, alors, ce qui serait intéressant, c'est comment vient le goût du dessin ?
C'est dur à dire, mais enfin, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire en mangeant du dessin, on aime le dessin, en fréquentant le dessin...
Au tout départ,
oui, étant môme, enfin, tous les gosses ont à peu près le même accès au dessin, aux illustrés, aux albums de coloriage, aux bandes dessinées, en tout cas la plus grande partie des gamins, je pense. Après, la différence se fait, à mon sens, après le collège. Il y a encore les moyens pour les gamins de s'exprimer en dessin au collège, dans les cours de dessin. Alors ça peut être des cours un peu magistraux, un peu chiants, mais ça peut être aussi, suivant les professeurs, des cours plutôt intéressants. Il y a même de la bande dessinée qui peut être enseignée. Mais après le collège, non seulement il n'y a plus d'apprentissage du dessin, mais il n'y a plus non plus de lecture du dessin. Donc la différence, enfin je pense que le dessinateur de presse en devenir fait se débusque au niveau du collège. Mais le goût du dessin, je l'ai eu comme, il me semble, tous les gamins l'ont eu. Quoi.
Et quelles ont été les influences graphiques, par exemple
Étant Tintin d'abord, Picsou ensuite, et puis... J'ai pas l'impression d'avoir regardé grand-chose de graphiquement de ces influences-là. Là où je commence à me reconnaître dans des anciens, c'est les premiers dessins qui m'ont marqué et qui me marquent encore, ce sont les dessins de Poirier. Je sais pas si tu vois qui c'est un dessinateur de PIF. Que j'ai cherché à imiter graphiquement et je crois qu'il m'en reste encore
quelque chose.
J'en parlais avec Luz récemment, lui aussi a été influencé par Poirier, lui ça se voit un peu moins. Et après à 10-12 ans j'ai essayé d'imiter Cabu avec une certaine rage, ce qui a totalement échoué. Étant donné que je n'ai là strictement rien gardé du talent de Cabu. Donc,
quoique, ouais. On verra tout à l'heure. Enfin, même je peux peut-être le montrer dès maintenant. Je ne sais pas si on peut l'avoir. On peut voir les caricatures qui sont sur mon ordinateur. Non. Voilà. Donc, il a peut-être rien gardé de Cabu, mais là, je pense que vous reconnaissez la. Je pense que vous reconnaissez la ministre qui est. Voilà.
Qui normalement est en fuchsia.
Je n'ai que la version noir et blanc. Donc, c'est pas. Désolé.
Non, mais dans la réalité.
Mais elle est quand même reconnaissable. Est-ce que les lectures sont importantes quand on est jeune dans l'influence? Là, on a vu que c'était pif, on a vu que.
Bah, le tournant entre la bande dessinée, parce que. Je m'apprêtais plutôt à faire, enfin, étant môme, j'essayais plutôt d'imiter les dessinateurs de bande dessinée et de m'exprimer en cases et en bulles. Voilà. Et la différence s'est faite avec la découverte de Cabu, les albums de Cabu et son Grand Duduche, qui n'étaient pas de la bande dessinée, tout à fait, parce qu'il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de cases, l'enchaînement était assez libre. Il pouvait y avoir une forme bande dessinée, mais pas seulement. Et c'est par Cabu que j'ai fait la jonction entre la bande dessinée, ou l'expression qui ressemble à ça, et le dessin de presse. Et c'est par les bandes dessinées, on va dire entre guillemets, de Cabu, le Grand Duduche, que je suis arrivé au dessin de presse de Cabu, et que là j'ai découvert l'univers du dessin de presse.
Et là c'était les albums, les journaux aussi.
Les journaux c'était un peu difficile parce que j'étais trop jeune pour connaître Charlie Hebdo, et le jour où j'ai commencé à lire Charlie Hebdo, le dernier numéro paraissait. Ah. Donc j'avais le droit à la couverture, allez vous faire enculer, donc j'y suis allé avec plaisir.
Que tu n'avais pas compris.
J'avais compris. Là, mais. Et donc des journaux satiriques, en tout cas avec du dessin de presse, il n'y avait guère que Le Canard Enchaîné. Et c'était un peu décevant, un peu, disons que il fallait s'intéresser de très près à la politique française pour comprendre le sens de ces dessins. Et j'étais plus sensible à des dessins beaucoup plus généraux sur l'actualité mondiale, sur contre la guerre, contre la fin dans le monde, etc.
Mais dès le départ, tu étais intéressé par l'actualité, par le dessin de société, dessin.
J'y suis arrivé par Cabu. C'est-à-dire que oui, j'étais tellement fasciné.
C'était pas très politique à l'époque.
Un petit peu quand même.
Ça c'était commençait
c'était
à être
contre
un
l'armée,
politique.
Contre. Enfin, c'est un peu oui. Et puis je me suis intéressé au dessin politique d'actualité française par Cabu, attiré par son trait. Enfin, fasciné par le trait de Cabu, la virtuosité qu'il avait, enfin qu'il a toujours. Et cette espèce de... Oui, j'étais vraiment amoureux graphique du dessin de Cabu.
Du dessin.
Donc, partout où je pouvais trouver du Cabu, j'en achetais, que ce soit des dessins d'actu ou de la bande dessinée, j'en achetais.
Et comment on vit quand on est encore collégien? C'était à l'époque.
Oui.
Entre le dessin qu'on apprend au collège et ce qu'on voit à l'extérieur, est-ce qu'on arrive à faire le lien entre les deux?
Le lien s'est fait
l'enseignement artistique formate en général. Enfin,
en fait, c'était moins l'enseignement artistique qu'une grande récréation où il nous était permis de dessiner plutôt que de faire d'autres choses. Quoi. Mais je ne pense pas avoir appris grand-chose au collège en dessin. La seule chose que j'ai appris de la part des profs, c'est de me dire qu'il n'y avait absolument aucun avenir dans le dessin de presse. Que la bande dessinée, déjà, c'était limite, mais alors le dessin de presse, il fallait totalement laisser tomber. Donc, que surtout, je ne rêve pas à faire une carrière là-dedans. Et ça a été, pendant toute ma scolarité, jusqu'à la fin du lycée, la même rengaine. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais des adultes responsables devant moi, il n'y en a pas un seul qui m'ait encouragé, sauf une prof en collège. Où je faisais un journal du collège, quoi, qui m'a dit on s'en fout, vas-y fonce. Mais sinon tous les adultes, y compris les censés être les professionnels du dessin, enfin les profs de dessin, etc., ont évidemment toujours découragé cette voie-là.
Mais pour le contenu ou pour le trait ou les deux?
Ah non, mais c'est-à-dire que ça rentre dans aucune case. À l'époque, quand j'étais au collège, il commençait à y avoir des écoles de bande dessinée. Donc, on pouvait effectivement apprendre la bande dessinée à l'école. Et ça, l'institution reconnaissait la bande dessinée comme un boulot praticable, puisqu'il y avait des écoles pour ça. le dessin de presse, il n'y avait pas d'école. Il n'y a pas d'école de dessin de presse. Et même les profs de dessin ne savaient pas dans quelle case ranger un dessinateur de presse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle démarche il faut faire pour être dessinateur de presse? Quel bagage il faut avoir, entre guillemets? Quelles études il faut faire? Il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. Il n'y a toujours rien, d'ailleurs.
Et donc, le cheminement se fait comment? Quelles sont les premières publications?
Les premières publications, c'est dans le journal du collège, tout bêtement, mettant en scène des profs, donc des dessins censurés qui circulent sous le manteau, et puis publier dans le journal des dessins plus généraux sur l'éducation, etc. Et puis après, au lycée, publication dans un hebdomadaire, un hebdomadaire d'information qui s'appelait Les Nouvelles du Val d'Oise, qui avait trouvé très intéressant de mettre du dessin dans ses pages, pas mal de dessins d'ailleurs, et intéressant parce que c'était un genre nouveau, original, ça c'est ce que je pensais, et puis je me suis aperçu que ça coûtait beaucoup moins cher que des photos, donc il trouvait ça plutôt sympa de combler les trous avec du dessin plutôt qu'avec des photos.
Et comment on bascule du journal lycéen au collégien au milieu professionnel? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arriver avec un produit fini, entre guillemets.
C'est le journal collégien, en gros, qui m'a permis d'aborder le journal professionnel, parce que dans le collège où j'étais, le journal qu'on faisait a reçu quelques prix nationaux, etc. Donc la presse locale en a parlé. Donc le contact avec les journalistes locaux s'est fait. Et puis, au fil des années, j'ai fini par intégrer le journal.
Mais est-ce qu'il y a eu une vraie démarche d'aller voir des journaux après d'élargir un peu le nombre de titres?
Après, c'est la galère de tous les dessinateurs de presse, c'est-à-dire que il faut présenter ses dessins aux journaux professionnels, et puis on va à Paris et puis on se trimballe avec le carton. Là, c'est la caricature du dessinateur de presse. Je vais à Paris et je me trimballe avec des dessins sous le bras et je fais toutes les rédactions. Je m'étais même acheté un dictionnaire de tous les journaux de presse avec leur adresse, tous les journaux. Et quel que soit le sujet du journal, j'allais voir le journal. Et si possible, quand il n'y avait pas de dessin dedans, j'allais justement voir les journaux où il n'y avait pas de dessin pour proposer du dessin. Alors, quelquefois, ça marchait. J'ai réussi à faire un dessin de temps en temps dans un journal comme ça. Et puis, le journal coulait où il n'avait plus besoin de moi.
Et cette période dure combien de temps en général?
En particulier,
pour cette fois-ci.
Je ne sais pas, mais disons que j'ai commencé à démarcher les journaux en 87, par là, et pour atterrir dans un journal qui m'a permis de publier régulièrement, c'est-à-dire La Grosse Bertha, en
91.
Dont il était rédacteur en chef à l'époque.
En 91.
En 91.
Donc ça fait quand même 4 ans où on n'est pas encore dessinateur, enfin professionnel.
4 ans, on ne sait pas bien ce qu'on est. Pareil, l'entourage veut bien vous dire dessinateur à condition que vous ayez des diplômes de dessinateur, que vous ayez fait une école de dessinateur, mais il n'y avait rien de particulier.
Ou des publications.
Ou des publications. Mais c'est à force de publications. Mais encore maintenant, j'ai du mal à me dire, oui, je suis dessinateur de presse. Oui, de fait, je suis dessinateur de presse. Mais je suis encore formaté par tous les gens que j'ai fréquentés étant enfant. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sanctionné par un diplôme.
Oui, mais peut-être que les parutions sont déjà un diplôme en soi. Enfin, le fait d'être diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires,
bien sûr, de fait.
Déjà...
Mais il me reste toujours ce truc je ne suis pas légitimé par un diplôme ou par un cursus universitaire ou je ne sais quoi.
Bon, peut-être que le poste de rédacteur en chef, peut-être.
Même pas.
Même pas. Bon. Et on va parler dessin aussi, parce que... On a envie de s'exprimer, on a envie de réagir sur des idées. Comment un dessinateur crée son style? Comment il recherche son moyen d'expression graphique? Ça démarre comment? En dehors des influences qu'il a pu avoir, mais je pense pas que Poirier ait beaucoup influencé.
Non, mais au départ, on essaye d'imiter. Et à force de vouloir essayer d'imiter et de ne pas réussir à imiter, on laisse tomber, puis on pique une crise de nerfs et on va au plus simple. C'est-à-dire on fait ce qu'on sait faire ou à peu près faire, et sans se forcer, en essayant de faire les choses le plus naturellement possible. Ouais. Et le résultat, on ne maîtrise pas forcément le résultat. Moi qui n'ai pas une formation de dessin classique, on va dire, mon dessin de 91 à aujourd'hui est en perpétuelle évolution, il ne s'est pas fixé. Bon, c'est toujours le même style, évidemment, mais d'année en année, on peut voir l'évolution graphique, et à mon sens, qui va vers une amélioration, mais en tout cas, le dessin bouge toujours un petit peu d'année en année. Je n'ai pas encore réussi à le fixer, je ne sais pas si je le fixerai un jour.
Mais par exemple, Cabu raconte que lui, il aimait les dessins de Grove dans Le Canard enchaîné ou de Beuville. Ciné prend Sternberg comme exemple. C'est-à-dire que, par exemple, Ciné raconte qu'il a acheté tous les bouquins de Sternberg pour essayer de se trouver son style. Et il y a beaucoup de dessinateurs comme ça qui... c'est vrai que c'est un métier d'autodidacte. Donc, il faut se faire sa propre école, arriver à... Mais de là à trouver le moyen d'expression le plus efficace... Il y a un vrai travail à faire, ne serait-ce que sur le trait, par exemple.
Oui, mais
l'outil, c'est le choix de l'outil.
C'est pas un travail conscient, je pense. Enfin, le choix de l'outil, oui, j'ai commencé avec des vrais outils de professionnels, avec des pointes à langue de Chine, etc., que je ne savais absolument pas manier, donc le résultat était assez déplorable. Et puis, comme je te disais, à un moment donné, j'ai essayé de faire au plus simple. J'ai pris un feutre, ce qui était le plus simple à manier pour moi, et puis voilà. Après, comment le style naît et comment c'est difficile à expliquer. Je ne crois pas que je serais capable de le faire. Parce que
Si, dans la mesure où il y a aussi une évolution, c'est-à-dire c'est beaucoup de travail. Je pense qu'on évolue aussi beaucoup en publiant, en voyant ses dessins publiés, en lisant des commentaires.
De toute façon, la meilleure formation, c'est le travail, non seulement bon, dessiner le plus souvent possible, mais c'est vrai que le fait que ce soit publié, d'un seul coup, on prend soi-même les choses un peu plus au sérieux et on ne fait plus trop n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on réfléchit à ce qu'on va faire. On sait que le dessin va être vu et qu'il restera. Le support papier, bon, il peut être un peu éphémère, mais quand même, il restera. Et donc, un jour, on pourra me le remettre sous le nez en disant « t'as vu ce que tu faisais comme merde ». Et donc, il faut faire un petit peu attention.
On n'a pas bien entendu, mais bon, ça...
Donc oui, le fait de publier, n'importe où, hein, pas simplement dans des journaux connus, où j'ai travaillé dans des fanzines avant...
Oui, il y a eu Canicule aussi, qui était un journal...
auquel participait Faujour,
d'ailleurs. Faujour, oui, il y a pas mal de dessinateurs.
D'ailleurs, avec Faujour, on a fait la tournée de journaux parisiens en même temps, à la même époque. Mais c'est une bonne formation. De toute façon, n'importe quel support, maintenant, je pense que si j'arrivais maintenant, je dessinerais sur Internet, effectivement. Ouais. Parce que le dessin peut être vu, il n'y a pas de démarche particulière à faire, il suffit de monter son blog ou son site.
Quel est le sentiment qu'on éprouve quand on voit son premier dessin publié dans un grand journal ou dans la grande presse ? Chénès raconte qu'un jour, il a déposé un dessin qu'il avait envie de faire au Monde, et le dessin est paru, alors qu'il y avait très peu de dessins dans le Monde, et il l'a su que plus tard, et après, il marchait à 50 cm au-dessus du sol pendant 3 jours.
Bah, c'est ça, oui. Bah, moi, c'était pareil.
C'était pareil.
Bah, j'ai vu un dessin publié dans Libération, ou un supplément de Libération sur des manifs étudiantes, et j'avais l'impression que dans le journal, on ne voyait que ça. Je tournais les pages, ouais, bon, et puis d'un coup, je tombe sur mon dessin, et évidemment, quel flash.
Et là, l'entourage, les parents, enfin, je ne sais pas, c'est pas une sorte de diplôme ?
Non, le diplôme, c'est le diplôme d'abord, c'est le diplôme. C'est
peut-être une famille traditionnelle.
Oui, c'est des gens qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, pas du tout le milieu de la presse. Enfin, moi non plus, je ne viens pas de là. Donc, et ce n'est pas tellement le diplôme, c'est est-ce que tu en vis ? Est-ce que tu arrives à gagner des sous avec ça ?
D'accord.
Et avant de pouvoir dire oui, il se passe quand même un petit peu de temps. Mais à partir du moment où tu arrives à gagner des sous avec ça, il n'y avait plus du tout de jugement sur le trait. Enfin, d'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Sur le trait, ni sur le contenu, ni sur la forme, ni sur quoi que ce soit. C'est bon, bah, puisque tu vis de ça, c'est que c'est ton métier. Mais,
À quel moment on arrive à en vivre ? C'est-à-dire... À quel niveau de publication, à quel niveau de collaboration, à quel niveau de...
Bah, c'est variable suivant les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à en vivre un petit peu bien à la grosse Bertha. C'est-à-dire que c'était les premiers salaires réguliers que je pouvais toucher. Et quand on a refondé Charlie Hebdo en 92, bon, c'était pas des gros salaires, mais c'était un salaire qui permettait de bouffer. Oui.
Il faut expliquer aussi que c'est un métier où on vit beaucoup à la pige, c'est-à-dire que
il y a
très très
normal,
peu de, ouais. de journalistes salariés en fixe.
Oui, c'est assez rare.
C'est assez rare. Ouais. Donc beaucoup c'est, de journaux.
Et à Charlie Hebdo, tout le monde est salarié. Tout le monde a un fixe, et ce qui est assez exceptionnel pour. Pour la presse. Ouais.
Vous êtes combien de dessinateurs, Charlie Hebdo ?
On est 11 ou 12.
On parlait tout à l'heure du trait, de l'image. On parlait aussi de l'évolution. Est-ce que tu te classes dans les dessinateurs dans quelle catégorie de dessinateurs de presse tu peux te classer ?
Bon, le meilleur.
Oui.
Non, qu'est-ce que tu entends en fait ?
Non, mais par exemple, y en a certains qui font du reportage. On revient toujours à Cabu.
Oui.
Cabu, on peut le citer en permanence. Il y en a qui font de la caricature, comme Bernard. Y a plusieurs catégories. En plus, on verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs sortes de dessins de presse dans la presse, enfin dans les journaux.
Il m'a été donné à Charlie de tâter un peu de tous ces modes d'expression. C'est-à-dire qu'on était censé pouvoir tout faire, en tout cas on nous donnait la possibilité de tout faire. Donc j'ai fait effectivement du reportage, j'aime bien le reportage, mais il fallait se rendre à l'évidence, c'est pas là où j'étais le meilleur graphiquement, j'avais un style entre le dessin réaliste et le style que j'ai habituellement, et je me sentais pas à l'aise là-dedans. Et à Charlie, toutes les formes du dessin sont exploitées. Ça va du strip à la bande dessinée, en passant par le dessin de reportage. Ouais. Et le dessin de presse classique, une case, un texte, une case, c'est là-dedans que je me sens le plus à l'aise. Et depuis quelques temps et de plus en plus, c'est le strip, c'est-à-dire exprimer une idée en trois cases. C'est quelque chose que je ferais bien plus souvent. Si j'ai le temps, je fais ça plus souvent.
Et ça serait une évolution du dessin ? Parce qu'on a vu le dessin tout à l'heure avec Guillaume Doisy, c'est toujours très classique. Enfin, à l'époque, c'était plus artistique, parce que c'est vrai que les dessinateurs de presse venaient du milieu artistique. Mais c'est toujours un dessin assez classique.
Le seul dessinateur de presse, en tout cas considéré comme tel, qui n'a respecté aucune règle, qui a explosé vraiment le genre, c'est GB. Il était capable de changer de style toutes les semaines pour pouvoir exprimer une idée. C'est-à-dire qu'il était prêt à changer de style, de forme d'expression pour se mettre au service de l'idée.
Donc on peut dire que tu es un peu plus classique.
Ah oui, je suis classique de fait, et puis coincé par le fait aussi que je manque un peu de liberté graphique, dans la mesure où j'ai pas une formation. Cabu a une formation classique, on va dire, ouais. Et il peut se permettre des choses que moi je suis encore que je peux pas encore faire. En tout cas, si je me lance dans du dessin de reportage, par exemple, ça va pas être très crédible, quoi. Ouais.
Mais est-ce que ça limite l'expression, ce manque graphique entre guillemets ?
Dans un premier temps, oui. Et puis ensuite, ça la stimule un peu, parce qu'avec les outils, avec les pauvres outils qu'on a, on est censé essayer d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et
si on pouvait montrer quelques dessins, vu qu'on parle de graphisme.
Non. En plus, c'est les plus fins.
Voilà.
Donc voilà, je fais avec ce que je peux, quoi, en gros. Le seul souci, c'est que graphiquement, que les personnages, les décors, que les objets, les voitures, l'univers qui accompagne les personnages soit cohérent avec les personnages. Qu'il n'y ait pas une différence de style entre le décor, on va dire, et les personnages. Et ça aussi, c'était long à mettre en place, parce qu'il fallait adapter. Il fallait que, par exemple, les voitures, qu'on puisse imaginer que les personnages que je dessine conduisent les voitures que je dessine, quoi.
Cette mise en place du vocabulaire, elle se fait en fonction de ses moyens, en fonction de ses limites.
Ça évolue, et tous les jours j'ai l'impression de découvrir un petit truc, enfin pas tous les jours, mais assez régulièrement je découvre un petit truc qui me permet de progresser dans,
Parce que souvent, quand on voit les dessinateurs passer à la télé et faire un dessin, on a l'impression que c'est un art instantané, quoi. Qu'on fait ça en 30 secondes parce que l'animateur l'a demandé.
Le dessin à la télé, de toute façon, il est beaucoup moins, beaucoup moins chiadé, on va dire, que dans la presse. Mais c'est presque, même le dessin à la télé, c'est presque plus de l'écriture que du dessin. C'est-à-dire que le personnage qu'on va dessiner ou la scène qu'on va dessiner... c'est une scène qu'on a déjà programmée à l'avance. Quoi. On ne se lance pas dans des grandes fresques dans un dessin de télé, d'autant qu'il va être vu 3 secondes, même pas.
Et qu'apporte ce support en dehors de l'audience? Parce que c'est vrai qu'entre l'audience d'une émission de télé et l'audience d'un journal...
Rien de particulier, sauf quand l'émission est en direct, ce qui m'est arrivé chez Fogiel l'année dernière. Enfin, et c'est vrai que c'est étonnant quand je raconte ça aux copains, parce que beaucoup m'ont demandé ce que j'allais foutre là-bas. Moi-même, j'avais du mal à répondre. Mais la vraie raison de... la vraie différence, c'est que l'émission était en direct et que le producteur de l'émission qui visionne les dessins un quart de seconde avant qu'ils soient publiés, en tout cas qu'ils soient projetés, a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il m'a laissé totale liberté. Sur 30 dessins dans une soirée, il y en a 3-4 qui ne passaient pas, et pas simplement pour des raisons de fond, mais parce que j'étais pas assez rapide à réagir sur un propos. Et le truc amusant, alors donc je ne sais pas si ça aide le dessin de presse ou c'était pas la question, c'était amusant à faire dans la mesure où il y avait une réaction, notamment quand il y avait des politiques. Il y avait une partie un petit peu politique en début d'émission, après c'était people, ça je m'en foutais un peu plus. Mais il y avait des politiques en direct qui voyaient les dessins en direct, et moi je voyais la réaction des politiques en direct, pas sur le plateau, mais qui revenaient en coulisses. Alors certains jouaient les grands seigneurs, formidable ce que vous faites, mais bon, ils s'en foutent. Et d'autres piquaient des crises de nerfs. Il y en a deux, trois qui ont fait la gueule. Et j'étais surpris de la réaction des politiques. Je pensais sincèrement que ça leur passait largement au-dessus de la tête et que bon, ils avaient d'autres chats à fouetter. Et non, certains d'entre eux arrivent à être vexés ou blessés par un dessin.
Et donc, est-ce que la télé n'est pas un nouveau support pour le dessin, si, avec ce maximum de liberté?
Si les règles du jeu sont respectées, c'est formidable. Enfin, moi, j'étais très surpris de découvrir, en plus sur M6, dans une émission People, la même liberté que je peux avoir, pas tout à fait à Charlie, mais c'est ce qui se rapprocherait plus de la liberté que j'avais à Charlie. Oui, il y a Charlie d'abord, il y avait l'émission de Fogiel et l'Humanité, qui sont les trois supports dans lesquels j'ai pu m'exprimer le plus librement.
Donc il n'y a aucune différence entre les différents supports? C'est-à-dire l'Humanité, c'est placé au même plan que Charlie? Ou est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder?
Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, oui. Enfin, des sujets qu'on ne peut pas aborder, je m'en suis aperçu en les abordant. C'est-à-dire qu'évidemment, critiquer le Parti communiste à l'Humanité, c'est pas ce qu'il y a de plus fin à faire. Donc je m'en suis aperçu assez rapidement. Mais ça ne me choque pas. Enfin, que les journaux, que chaque journal ait sa ligne éditoriale avec ses limites, ça ne me choque pas si les limites sont données au moment où on rentre dans le journal. Ou comme dans l'émission de Fogiel, les règles étaient claires dès le départ. Il y avait des limites. J'ai travaillé un an à Télérama. On m'a dit, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, mais tu fais pas d'insultes, pas de scatologie et rien sur la religion. Donc, avec ce qui restait, est-ce que j'acceptais les règles du jeu? Est-ce que j'acceptais de dessiner? Bon, je l'ai fait et bon, j'étais content du résultat.
Combien de temps?
Un an.
Un an.
Un an, c'était un strip par semaine. Et il n'y a rien de plus énervant pour un dessinateur de presse que de rentrer dans un journal ou peu importe le support, et où le rédacteur en chef ou le responsable vous dit « tu as toute liberté, mais vraiment tu peux faire tout ce que tu veux ». Et alors effectivement, quand les règles du jeu sont aussi claires que ça, on fait ce qu'on veut, et au bout de deux numéros ou deux dessins, on nous dit « non, là il y a des limites ». Et là on peut parler de censure. À partir du moment où les règles sont définies bien dès le départ et qu'on les accepte, c'est plus tellement de la censure, c'est on respecte ou non la ligne éditoriale d'un journal.
Et quand on est dessinateur, auteur, enfin, c'est-à-dire qu'on a... Parce que tout à l'heure, on verra qu'il y a des illustrateurs aussi, c'est-à-dire qu'ils ne font que agrémenter un article. On va vers des journaux, forcément, qui sont susceptibles de pouvoir s'exprimer, enfin, de laisser la possibilité de s'exprimer. Est-ce qu'il y en a beaucoup en dehors de Charlie, de l'humanité et de...
Il y a des petites niches. Dans chaque journal a sa petite niche avec son dessinateur qui peut s'exprimer dans une certaine mesure. Il y a un copain qui m'a demandé de travailler pour une revue qui s'appelle Bateau, donc qui est spécialisée dans les bateaux, dans les bateaux à voile en plus. Voilà. Et j'illustre une fois par mois, il y a un courrier des lecteurs, et je fais un dessin pour le courrier des lecteurs. Donc je dois illustrer le courrier des lecteurs, mais en même temps j'ai une certaine attitude et je peux faire du Charlie Hebdo dans le cadre du courrier des lecteurs de cette revue.
De bateau.
Et c'est assez inattendu et ça me redonne espoir un peu dans le...
Dans le monde du bateau ?
Non, pas dans le bateau, mais dans le dessin de presse. Il y a encore des endroits où on peut faire du dessin sans trop être emmerdé, quoi.
Comment on explique, enfin, tu peux expliquer la frilosité des rédactions à utiliser le dessin ?
Simplement parce qu'ils sont en alphabète. Enfin, il y a encore quelques années, il y avait des directeurs artistiques à peu près dans tous les journaux. Et le problème, c'est que les directeurs des journaux ou les rédacteurs en chef sont aussi en alphabète en dessin que la plupart du temps les lecteurs le sont, parce qu'ils n'en voient pas, parce qu'on apprend à lire et à écrire... durant toute sa scolarité, mais on n'apprend pas à lire du dessin ou à décrypter du dessin, d'où le problème d'ailleurs avec les caricatures de Mahomet qui ont été publiées dans Charlie. C'est pour expliquer à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir du dessin que ces dessins n'étaient pas racistes et qu'ils n'étaient pas insultants, c'est très compliqué. Il faut faire une explication de texte qui fout en l'air complètement le dessin.
On va lâcher le mot. Est-ce qu'il n'y a pas une autocensure des journaux, ou au moins une frilosité des journaux à ne pas, enfin, pour ne pas choquer le lectorat ou pour ne pas...
Oui, la réaction la plus terrible que j'ai entendue, c'est quand je cherchais du boulot, justement, quand je faisais ma tournée des journaux. C'était un journal médical ou paramédical. Et c'est la première fois que j'ai été accueilli avec autant de rire, d'éclats de rire. J'ai amené mon dossier de dessin et toute la rédaction était morte de rire. Ils se les passaient entre eux, ils s'est remonté comme ça jusque chez le directeur. Donc je me suis dit, ah, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé du boulot. Et puis ils m'ont rendu tout le tas de dessins, vraiment en s'essuyant les yeux de rire. Et ils m'ont dit, ouais, mais bon, nous ça va, hein, mais nos lecteurs, ils ne comprendraient pas. Donc la tendance des journaux, et des rédacteurs en chef et des dirigeants de journaux, c'est de prendre le lecteur pour beaucoup plus con qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est assez agaçant. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement parisien, mais c'est une tendance assez générale.
C'est une tendance assez généralisée, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de dessins en province, dans la presse de province, quoi. Tout est rassemblé à Paris
Et puis encore une fois, il n'y a plus de directeur. Quand je suis rentré à l'Humanité, il y avait un directeur artistique. Il n'y en a plus maintenant.
On verra tout à l'heure avec les Libérations. Il y a encore des directeurs artistiques,
sûr,
notamment avec le travail avec Willem, qui utilisent beaucoup le dessin. Les rires qu'on entend, c'est
des dessins qui passent derrière.
Voilà. Quand on parle d'avenir du dessin de presse, parce que tu es relativement jeune.
Merci.
Non, quand on voit que certains font des carrières jusqu'à 80 ans et qu'ils créent encore des journaux, il te reste, disons, on va dire 40 ans de...
Oui, de carrière.
De carrière. Comment tu vois, tu te projettes au niveau des supports, au niveau du contenu?
Je n'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, sur quel support je travaillerai dans les années qui viennent, mais je sais que je continuerai à dessiner, que ce soit sur Internet, sur des supports qui restent encore inventés, mais je ne me vois pas m'arrêter de dessiner. Tous les journaux se ferment au dessin de presse, si Internet passe à autre chose, je sais que je trouverai un support, même si on est deux à le lire, pour produire du dessin de presse. Ouais.
De toute façon, on a vu que dans l'histoire, les supports se créaient en fonction des événements. C'est-à-dire que souvent, c'était des feuilles qui étaient distribuées dans la rue.
Bien sûr, oui,
pour pouvoir...
Mais comme dans les années 80-90, avec Canicule, qui était un fanzine, c'était, c'était aussi l'exutoire. C'était aussi la... c'était une manière aussi enfin, je dis souvent, si j'étais pas dessinateur de presse, avec la liberté que j'ai, je serais peut-être tueur en série J'aurais trouvé d'autres moyens de m'exprimer, quoi.
À propos des, justement de la diversité, tu dessines aussi pour l'Écho des Savanes, tu dessines pour d'autres journaux. Comment tu arrives à assumer ces diverses collaborations? Enfin, est-ce que c'est un besoin de diversifier des tentatives pour voir si autre chose ne t'intéresse pas plus que le dessin politique
Pour l'Écho des Savanes, c'est plus du dessin d'illustration. C'est un peu ce que je fais dans Charlie, ça apporte pas beaucoup plus à ce que je fais par ailleurs. Dans Flux Glacial, c'est différent parce que ils m'ont donné la place pour faire plus ou moins régulièrement, mais relativement régulièrement quand même, des strips. Et c'est ce vers quoi j'aimerais bien. C'est ce que je préférerais. Pour l'instant, c'est ce que je préfère faire. Passer du dessin de presse au strip, à l'idée développée en trois cases. Avec le strip, il y a un rythme de lecture différent, il y a une ponctuation différente, et c'est presque. Alors, c'est pas du cinéma, mais ça serait presque du théâtre, quoi.
Donc, il y a quand même une réflexion sur le travail, c'est-à-dire que le dessin d'actualité semble limité, enfin, semble.
Le dessin d'actualité, il n'y a plus tellement de. Quand j'ai besoin de trois cases pour exprimer une idée d'actualité ou commenter une idée sur l'actualité, j'utilise les trois cases. D'accord. Parce que je sais que dans Charlie Hebdo, je peux le faire. Mais par exemple, à l'UMA, c'est plus compliqué de le faire puisqu'il y a un encart qui est prévu pour un dessin qui est relativement carré et c'est un dessin classique de presse. Donc le laboratoire, là où on peut tenter des choses, c'est Charlie. Et puis trouver la place de les mettre en œuvre, c'est quelquefois Flux Glacial ou d'autres supports.
Et le fait qu'il y ait si peu de journaux satiriques en France,
C'est un mystère parce qu'il y a la place.
Il y a la place. Ouais. Il y a le nombre de dessinateurs aussi. Parce que c'est vrai à l'heure, Guillaume Doisy disait que le métier était en perte de vitesse. Et effectivement, il est en perte de vitesse.
Il est en perte de vitesse parce qu'il n'y a plus de visibilité du dessin de presse. Mais quand la France gagne un match de handball, on s'aperçoit que tous les jeunes s'inscrivent au handball et deviennent handballeurs. Et du coup, le niveau de handball en France va grimper. Mais plus il y aura de journaux de dessin de presse, plus le niveau des dessinateurs de presse est. Plus il y aura de dessinateurs de presse, c'est sûr. Mais pour l'instant, on est très, très, très limité.
Ouais. Ouais, je suis peut-être moins optimiste, parce que sur une période de 15 ans, justement, depuis La Grosse Bertha, qui était un nouveau journal, il y a très, très peu de dessinateurs qui sont apparus, en dehors de Luz, Riss, ou quelques-uns, ou Catherine, qui est une jeune dessinatrice aussi.
Mais c'est aussi parce que les supports ne sont pas nombreux. À Charlie Hebdo, c'est vrai qu'il n'y a pas la queue jour et nuit à Charlie Hebdo pour porter des dessins, mais on pourrait intégrer beaucoup plus de dessinateurs que ça à Charlie Hebdo.
Donc, en fait, c'est le rédacteur en chef qui pourrait ouvrir, ou adjoint, qui pourrait ouvrir
En tout cas, la manière dont ça marche à Charlie, c'est plus. C'est là où c'est pas un fonctionnement. C'est un fonctionnement un peu particulier. Quand quelqu'un apporte un texte, c'est le rédacteur en chef qui tranche pour savoir si oui ou non on le publie. Quand un dessinateur apporte un dessin, il faut qu'il se fasse un certain consensus de l'équipe autour du dessin. Donc, d'un coup, l'examen de passage pour passer un dessin à Charlie est beaucoup plus dur que pour les rédacteurs. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Et ce qui limite aussi les tentatives. Les tentatives de
extérieur,
oui, bien sûr.
Et quel regard tu portes en tant que rédacteur en chef ou même adjoint sur les jeunes dessinateurs qui viennent, sur la qualité, sur est-ce que certains viennent d'école, est-ce que certains.
Il y a les deux. Il y a ceux qui viennent d'école, mais ceux qui ont une très bonne maîtrise graphique viennent souvent des écoles de bande dessinée et ils ont une formation de bande dessinée. Ou alors illustrateurs, il y a de très bons illustrateurs qui viennent apporter des. Enfin, graphiquement, c'est magnifique, mais on ne sait pas quoi en faire parce qu'ils attendent d'illustrer un propos et ils n'ont pas forcément de propos à tenir. Et c'est ce qui manque le plus, c'est-à-dire que graphiquement ce soit publiable, agréable, etc., et qu'il y ait un propos, et qu'il y ait un propos en plus.
Est-ce que tu te posais ces questions quand tu démarrais, quand tu étais jeune dessinateur? Est-ce que tu te posais la question du trait et de l'idée, comme tu viens de le dire?
Oui, mais c'est là où je trahis un peu le dessin de presse, c'est que souvent on dit que le dessin, il faut que le dessin et l'idée soient en adéquation et comptent pour autant. Moi, je pars du principe que l'idée compte d'abord, et le dessin ensuite n'est qu'une façon de faire passer l'idée et n'est quelquefois qu'une ponctuation pour lire l'idée ou pour interpréter l'idée. Mais si je dis ça devant Cabu, je me fais tuer. Donc,
Ah bon, à ce point.
Non. Mais...
Est-ce qu'il y a une émulation entre dessinateurs, par exemple, à Charlie Hebdo ?
Ah bah oui, oui.
Vous êtes quand même...
Puis on travaille un peu les uns sur les autres, donc on voit ce que...
Ça aussi, est-ce que c'est une méthode de travail, ça ? On peut parler de la méthode de travail ? Parce que c'est vrai qu'à la belle époque de Charlie Hebdo, chacun travaillait chez soi, enfin à la belle époque, le Charlie Hebdo d'origine, chacun travaillait chez soi, amenait sa planche, avec, comme disait Cavana, la volonté d'étonner l'autre.
Oui,
Là, maintenant, je crois que vous travaillez différemment. Vous
travaillez on travaille en grande partie chez nous, mais le lundi, par exemple, qui est le jour de la recherche de la couverture, tous les dessinateurs ou une grande partie des dessinateurs sont là autour de la table. Et du coup, on voit le dessin de l'autre se créer. On voit de temps en temps, on repère les trucs, les raccourcis. Dans une caricature, on voit ce qu'a chopé tel dessinateur, donc on essaye de l'adapter à notre dessin, nous aussi, etc. De copier, mais enfin copier...
Pour Cabu.
du coup, oui, on est... Je crois que le fait de dessiner tous ensemble sert les dessinateurs.
C'est stimulant.
C'est plutôt stimulant, oui. Puis c'est un peu un grand concours de dessin sans enjeu ni prix, mais c'est quand même à celui qui fera la couverture, finalement. C'est le but du jeu le lundi, en tout cas.
Le diplôme, quoi. Mais est-ce que vous parlez dessin entre vous ? Entre professionnels, entre dessinateurs ?
Ah oui, bien sûr.
Est-ce que vous parlez du travail de l'autre ? Est-ce que...
On parle du travail de l'autre et puis des influences de chacun, des expos que certains ont vus, etc. Là, par exemple, le dernier gros sujet de conversation à Charlie, c'est l'arrivée de l'album de GB qui retrace une grosse partie de son travail dans Charlie Hebdo de 92 à
2003.
À 2003. Et c'est fabuleux, quoi. Ouais. On a le résumé de 10 ans de carrière en un album, et c'est une mine incroyable.
Alors, ce qu'il y avait de bien aussi chez GB, c'est qu'il adorait écrire. Et c'est vrai que ces chroniques sont un mélange de dessin et d'écriture. Et toi aussi, tu écris. Enfin,
oui, je ne mélange pas aussi.
Mais tu ne mélanges pas.
Non, j'écris pas à la main, ni dans le dessin.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais quelle différence tu. Enfin, quels sont les plaisirs différents que tu éprouves, aussi bien à dessiner que à.
Il y a un plaisir. Je ne tomberai pas dans le côté un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, parce que. Vaut mieux un bon discours qu'un mauvais dessin, etc. Mais je ne me passerai pas des deux. J'aurais du mal à me passer d'écrire maintenant et je ne peux pas me passer de dessiner. Mais il y a un plaisir sensuel dans le dessin qui n'existe pas dans l'écriture.
Sensuel, on peut...
C'est physique. On a quand même un stylo à la main et une gomme et quelquefois de la couleur. Et donc, c'est On a un contact avec la matière qu'on n'a pas quand on est devant l'ordinateur et qu'on tape un texte.
GB n'écrivait pas avec un ordinateur, il écrivait à la main.
Parce qu'il n'a jamais su, feignasse.
Non, il a essayé, mais...
Oui, effectivement, mais pendant très longtemps. Moi, j'ai mis très longtemps à me mettre à l'ordinateur pour écrire les textes imprimés, mais c'est quand même plus... Enfin, maintenant, j'aurais du mal à revenir à l'écriture manuelle. Ouais.
Un écrivain, tu n'as pas l'impression de participer à la guerre qui existe entre le texte et le dessin dans les journaux ? Parce que c'est vrai qu'il y a une omniprésence de textes.
Quand je me suis mis à écrire régulièrement, c'était au relancement de Charlie Hebdo. Et Val, à l'époque, m'avait demandé... J'avais déjà écrit un petit texte à la Grosse Bertha. Et Val m'avait demandé si je ne voulais pas écrire un petit peu dans Charlie parce qu'on manquait de rédacteurs. Et la proportion de dessin et texte était en faveur du dessin, quoi. À la grande joie de Cabu, qui est toujours en train de compter dans Charlie combien il y a de surface pour le dessin, combien il y a de surface pour le texte. Mais il y avait sa règle et il compte les centimètres carrés. Et des fois, il s'énerve. Et donc Val m'avait demandé si je voulais pas écrire. Du coup, je me suis essayé à ça. Et entre-temps, les années passant, d'autres, des vrais journalistes, on va dire, des journalistes d'investigation, ont intégré Charlie Hebdo et ont bouffé un peu la place du dessin. Le souci, enfin,
c'est bien
ou
c'est pas bien ?
Bah, c'est bien dans le sens où je crois pas qu'aujourd'hui. Un journal s'achèterait uniquement pour le dessin. Le dessin est assez vite lu. Les gens font la gueule quand ils doivent débourser 2 euros pour acheter un journal. Et s'il n'y a pas la particularité de Charlie Hebdo, c'est que, en gros, le texte vient en illustration du dessin. C'est le truc en plus du dessin. On achète Charlie Hebdo pour le dessin, probablement. Et puis, il y a quand même du texte on a du texte à se mettre sous la dent. Le Canard Enchaîné, c'est presque un peu l'inverse. On achète Le Canard Enchaîné pour les infos, pour les scoops. Et puis, coup de bol, il y a du dessin en plus. Ça fait un petit truc en plus à grignoter, quoi. Mais non, je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose. Maintenant, il faut faire gaffe et on essaye de faire gaffe à l'équilibre. Oui. Il ne faudrait pas que le texte l'emporte sur le dessin, surtout notamment si c'est des textes qui peuvent être lisibles dans d'autres supports, dans d'autres journaux.
Quand on écrit un texte, est-ce que l'idée est toujours primordiale, comme dans le dessin, la recherche de l'idée ou l'expression ? Parce qu'un dessin, c'est aussi un vocabulaire, c'est-à-dire que s'il doit y avoir une chaise, comme on a vu tout à l'heure, il faut que ça ressemble à une chaise. Ouais. S'il y a un tas de paille, il faut que ça ressemble à un tas de paille. Donc il y a cette recherche d'éléments de vocabulaire pour faire une phrase, un dessin. Est-ce que le texte, c'est la même recherche pour toi qui es dessinateur et qui écris ?
Oui, il y a le souci de faire des textes cohérents, du moins dans le style, qu'il n'y ait pas de rupture de style dans l'écriture ou que... Il n'y a pas des...
Qu'il y ait un parallèle entre le charbe qui écrit et le charbe qui dessine. Bah,
ça c'est dur, je suis incapable de le dire. Mais il y a une anecdote amusante, enfin, ce n'est pas une anecdote parce que ça m'arrive assez souvent, notamment dans les dédicaces. Il y a les gens qui viennent vous voir en tant que dessinateur. Et là, c'est plutôt « Salut, comment tu vas ?» et on a le droit à une tape sur l'épaule et puis c'est plutôt sympa. Non. Et il y a des gens qui viennent vous voir en tant que rédacteur. Et là, c'est beaucoup plus guindé, le vouvoiement est presque obligatoire, et il y a une espèce de respect ou de crainte du rédacteur qu'il n'y a pas avec le dessinateur. Il y a une proximité avec le dessinateur qui n'existe pas avec le rédacteur. Mmh. Et...
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les dessinateurs soient plus, pas honorés, mais respectés en tant que métier, quoi ? Parce que c'est vrai que là, depuis qu'on a discuté au début, on a commencé avec le diplôme, là, avec cette anecdote... Apparemment, le dessinateur, c'est même pas un métier, quoi. La question, c'est toujours qu'est-ce que vous faites comme métier, vrai. Quoi.
Mais à part dans Charlie Hebdo, où si on enlevait les dessins, évidemment, les ventres s'effondreraient. Je ne crois pas qu'à aucun moment, quand, par exemple, pour prendre mon exemple de Fogiel, si on avait enlevé les dessins chez Fogiel, je ne pense pas que l'émission ait fait une personne de moins. Je ne pense pas que si Luma supprime son dessin, les lecteurs vont partir en masse. C'est toujours le truc en plus, le dessin dans les journaux, c'est pas considéré comme essentiel. Et je pense que de fait, c'est pas essentiel à la vente, en tout cas.
À la vente.
C'est-à-dire que les gens n'achètent pas. À l'époque où il y en avait un peu plus, mais les gens n'achètent pas Télérama pour les dessins ou non. quelques rares fans.
Ce n'est pas un journal de dessin.
Oui.
Donc on n'achète pas.
Mais il faudrait que un dessinateur dans un journal, ouais. Qu'un dessinateur fasse clairement vendre le journal pour que le dessinateur prenne une importance. Il n'y a que ça qui compte. Enfin, si le...
Mais moi, je parlais de la respectabilité du métier. Si les gens ne viennent pas dans ce métier, enfin les jeunes ne viennent pas, ou si même les journalistes considèrent que c'est des amuseurs mais pas forcément un métier, comment on pourrait gagner cette respectabilité de ce métier-là, quoi. Enfin, autant un ébéniste peut se faire respecter, ouais, parce qu'il fait des meubles, autant le...
Quand on rencontre les lecteurs, on est quand même respecté par les... C'est plutôt même sympa qu'il y ait cette espèce de proximité entre le dessinateur et le lecteur, qu'il n'y a pas entre le rédacteur et le lecteur, souvent. Mais moi, je préfère ça. Mais respecter... moi, je trouve qu'on est...
Vous n'avez pas besoin de respect.
Non, ça va. Non, le respect...
Mais je parlais d'un respect professionnel, quoi. C'est-à-dire... qui permet de faire le métier, qui permet de, d'ouvrir les portes, qui permet de gagner sa vie, qui permet...
Ouais,
de,
je ne sais pas ce qu'il faut... Honnêtement, je ne sais pas.
Donc, c'est comme les artistes, quoi. Il faut se battre pour faire sa place. Et,
bah,
il y a beaucoup de, ouais, de parallèles entre les deux métiers.
Il y a beaucoup de parallèles.
Entre les acteurs, les...
Mais un dessinateur de presse, par exemple, sans support... C'est plus un dessinateur de presse. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut ne plus être dessinateur de presse et tomber totalement dans l'oubli et être rayé de la carte. Ouais. Personne ne va venir défiler chez vous pour venir chercher.
C'est ce qui arrive actuellement à Dobritz, qui est au Figaro, qui est le seul qui est resté après Faisan. Et ils l'ont pas. Il est toujours au journal, il a un placard, on ne lui demande plus rien. Il est dessinateur fantôme, il n'est plus dessinateur, il sait même plus ce qu'il est, quoi, par rapport... Donc, voilà, il est salarié, il touche son salaire.
Et encore, il y a un salaire,
oui,
ce qui est très très rare.
Ouais. Mais, bon, on a fait un tour de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Bon, pour plus tard, on verra bien. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions à poser, on l'a sous la main. Si vous voulez avoir des éclaircissements ou des choses que j'aurais oubliées sur comment devenir dessinateur de presse.
Et comment le rester.
Et comment le rester, surtout. On a un micro-baladeur.
Attendez.
Si ce n'est pas indiscret de vous demander, si c'est indiscret, vous ne répondez pas. Le fait qu'il y ait eu depuis quelque temps Ciné Hebdo, est-ce que pour vous c'est un enrichissement ou au contraire un problème parce que déjà la concurrence est assez rude?
Non, c'est ce que je disais à François tout à l'heure. Je pense qu'il y a la place pour 2, 3, voire 4 journaux satiriques en France. Les dessinateurs de Charlie attendaient Ciné Hebdo avec une certaine impatience dans la mesure où... où c'était, enfin, ça pouvait être une émulation. Il y a Faujour, par exemple, qui travaille à Ciné Hebdo. Moi, j'attendais de voir ce que Faujour allait faire dans Ciné Hebdo. Et il n'y a jamais assez de journaux satiriques. Et on constate aussi que tout le monde envisage ça sous la forme de la concurrence. Enfin, on se dit, c'est Ciné Hebdo qui va piquer des lecteurs à Charlie. On n'a pas perdu un seul lecteur. Et Charlie Hebdo et Ciné Hebdo se vend, le numéro 2, je crois, s'est vendu à 100 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un journal satirique. Donc la seule crainte, effectivement, c'était que le public choisisse entre deux journaux. Et je pense qu'il y a deux publics possibles pour deux journaux, et il y a peut-être même trois publics possibles pour trois journaux, peut-être quatre, j'en sais rien. Mais plus il y aura de journaux satiriques et de dessins de presse, mieux les dessinateurs de presse se porteront.
Le troisième, c'est le canard enchaîné, quand même.
Oui, mais c'est...
Oui. J'avais une question concernant le style, et je trouvais qu'il y avait un certain rapport avec les Simpsons. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez dedans ou pas.
Dans la couleur,
style,
oui.
Traiter la couleur, et même au niveau du style graphique.
C'est vrai, le trait a évolué. J'avais un trait beaucoup plus... c'était pas aussi rond, aussi mou il y a quelques années. Et le trait, c'est un peu arrondi. C'était beaucoup plus... Les angles étaient beaucoup plus pointus. Et ça s'est peut-être arrondi à... c'est peut-être l'influence des Simpsons, je sais pas. En tout cas, on me demande souvent pourquoi j'ai fait les personnages jaunes, parce que ça fait penser aux Simpsons. Et à l'époque, je connaissais pas les Simpsons. Au moment où j'ai décidé de, quand je faisais les personnages en couleur, je les faisais jaunes. C'était plutôt pour me démarquer de Tinius, qui lui utilisait toute la palette de rose pour ses personnages. Et moi, pour un moment, j'avais plutôt tendance à faire des personnages roses. Sauf que j'étais un peu dans les tons de Tinius et j'utilisais les mêmes feutres que Tinius. Et du coup, je me suis dit, bon, j'essayais en vert, c'était un peu moche. Du coup, j'ai mis du jaune sans penser plus à ça aux Simpsons. Mais du coup, oui, ça, oui, on en parle souvent.
Et en même temps, il a trouvé un truc pour qu'on remarque ses dessins par rapport aux autres. Quoi. Même si on pose ce genre de questions... On reconnaît des dessins de Charles en plus du trait, quoi. Là, je vais faire Bernard Pivot, c'est le dernier livre de Charles.
Merci Bernard.
Qui sort ces jours-ci. Il y a un dessinateur qui a posé une question, Rousseau.
Oui, tout à l'heure, Forcadell, tu parlais de la légitimité du dessinateur de presse et du respect qu'on doit lui accorder. Et j'ai remarqué quelque chose en moyenne tous les dessins de Charb là, qui nous ont fait bien marrer. Et je me disais, si on gardait les bulles et qu'on changeait de dessinateur, est-ce que ça n'aurait pas été exactement pareil? Et puis je me suis dit que finalement, peut-être. Alors finalement, je suis arrivé à la conclusion que le dénominateur commun, c'est l'esprit, tout court. Et que tant qu'il n'y aura pas des écoles d'esprit et des diplômes d'esprit, on ne pourra pas dire qu'il y a des diplômes de dessinateur, de presse ou d'autres choses d'ailleurs. J'entends par esprit, il y a un mot allemand qui le définit, parce qu'en français, je ne sais pas comment ça se dit, c'est le vite. Je crois que c'est Wilhelm Reich qui disait que c'est tellement violent que ça surprend même son auteur. Voilà, tout à fait, c'est ce que je voulais dire au niveau du dessin de presse. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de dessin de presse.
Oui, oui.
C'est la recherche de l'idée, c'est ce que disait... Et l'idée, avec de l'esprit, forcément, puisque il y a beaucoup de composantes dans un dessin. Il y a l'actualité, il y a le dessin, il y a l'idée, il y a le... Donc, il y a le journal qui le publie aussi, parce que si un dessin qui a beaucoup d'esprit est publié dans un tout petit journal, il passe à côté aussi. Quoi. Mais tout ça...
Alors, tu disais tout à l'heure que, pour expliquer le manque de succès du dessin de presse aujourd'hui, qu'il y avait un problème d'éducation à l'image. À l'école, on n'éduque pas au dessin de presse. Je te rassure un peu. Ça se fait de plus en plus quand même. Il y a un certain nombre d'enseignants en histoire ou même en lettres qui utilisent le dessin de presse. Ça, voilà. Mais je suis pas sûr que l'argument soit convaincant parce que il y a un siècle, quand il y avait autant de dessins de presse, il y avait encore moins d'éducation à l'image et encore moins d'éducation au dessin de presse. Voilà, on n'apprenait pas ça à l'école et c'était quand même un peu spontané. Moi, je crois que le problème, il est beaucoup plus culturel, social. Il est lié à la situation de la société plus qu'à l'éducation des lycéens.
Il y a un siècle, il y a quelque chose de très important. On l'a vu dans la mesure où les dessins étaient mal reproduits dans les premiers journaux. C'est qu'il n'y avait pas de photos dans les journaux. Il n'y avait pas de photos. C'est-à-dire que ce qui était publié dans les journaux, c'était des dessins. Et encore, au début, il n'y en avait pas beaucoup de dessins. Les dessins étaient imprimés sur des planches à part pour pouvoir être diffusés. Mais dans les journaux, techniquement, ce n'était pas possible de les inclure dans les colonnes de texte qui étaient faites avec du plomb. Et donc, le dessin, les gens qui venaient au dessin dans les journaux étaient des vrais dessinateurs, des artistes. Comment dire ? Là, maintenant, il y a une telle concurrence entre la photo et le dessin que... Enfin, je ne sais pas si je vais réussir à me sortir de mon truc. Oui, mais le public, on lui donne... les bons dessinateurs, par exemple, dans Ciné Hebdo, il y a Delesser qui publie des dessins, parce que Ciné a décidé de publier Delesser, qui est un graphiste américain, qui maintenant vit aux États-Unis, parce que c'est du beau dessin. Mais il n'y a pas de journaux qui ont cette volonté d'éduquer le public en montrant de beaux dessins. Quoi. Enfin, je ne dis pas que les dessins de Charlie Hebdo et les dessins de presse aujourd'hui, mais... Il y en a moins. Je voudrais revenir aux écoles. Apparemment, il y a des écoles qui apprennent quand même, qui sensibilisent en tout cas au dessin de presse. Il y a Émile Cole à Lyon, qui a un département qui travaille sur le dessin de presse. Il y a eu Daniel Maja qui est intervenu. Il y a Goth qui est intervenu. Il y a Mulatier qui intervient aussi pour la caricature. Et il y a l'école Estienne aussi, qui, avec le prix Presse Citron... sensibilise, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de renouveau non plus. Ils sont dans la tradition du dessin, mais ils sensibilisent quand même.
Il y a aussi beaucoup de bouquins de classe qui sont édités avec le dessin de presse comme exemple, où il faut expliquer un dessin de presse, etc. Et moi, je suis plutôt favorable à ça, mais on a un débat avec Cabu, par exemple. Lui, il dit que trouver du dessin de presse dans un bouquin de classe, ça va dégoûter les gens du dessin de presse.
Cabu a des théories bien à lui. Donc,
pourtant, il ne boit pas.
Non, mais... Si.
Ah, d'accord. Ah, zut.
Une question de Catherine Bonnaise, dessinatrice elle-même.
Ben oui, on est plusieurs dessinateurs.
Je suis désolé, je dénonce parce que...
Ouais, on est plusieurs dessinateurs et puis il y en a partout dans la salle. Ah oui. Et je voulais te demander, Charb, tu vas peut-être devenir rédacteur en chef.
Avec
c'est une question
temps,
précise.
À l'ancienneté, oui. Ça, un
mais
jour, j'y arriverai.
Quelqu'un va te laisser la place.
Bah, il faut la prendre.
Il faut la prendre. Et tu vas prendre la place de qui?
Bah, celui, le premier qui meurt, je prends sa place.
Parce que pour l'instant, rédacteur en chef, c'est qui?
C'est Gérard Biard.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est quelqu'un qui écrit. Enfin, quelqu'un de l'écriture.
Ok.
Et le match, bon, je dis ça pour rigoler, mais le match qui existe à Charlie, c'est effectivement la concurrence entre ceux qui écrivent et qui ont des responsabilités et ceux qui dessinent et qui ont des responsabilités.
Ouais, voilà. Ouais. Donc toi, tu as les deux responsabilités finalement?
Bah, j'écris et je dessine. Ouais. Donc j'étais légitime. Non, je déconne. Mais ça, c'est... Enfin, ça c'est... Il n'y a pas de... Comment? Ça s'est un peu fait par hasard. C'est-à-dire que... Celui qui veut la place prend la place. Il faut s'investir un peu dans le journal, être un peu là un peu plus souvent et aimer un peu organiser les choses et ouais. Se faire chier, quoi, c'est tout. Mais
et alors mon autre question c'est comment dire, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le métier de dessinateur de presse et le métier de rédacteur en chef, ou je veux dire entre le pouvoir et le dessin de presse, quoi? Est-ce qu'il y a pas un...
Là, je te rassure, le pouvoir est relativement relatif, parce que là aussi, où on a un fonctionnement un peu particulier à Charlie Hebdo, c'est effectivement, on a de plus en plus de titres, effectivement, qui ressemblent à des vrais titres que les gens ont dans les journaux. Dans l'Ours, il y a marqué rédacteur en chef, rédacteur en chef adjoint, etc. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir les prérogatives d'un rédacteur en chef adjoint, et je ne pense pas que le rédacteur en chef ait les prérogatives d'un vrai rédacteur en chef. On est plus des super secrétaires de rédaction que des rédacteurs en chef, dans la mesure où, en tout cas pour le dessin, je n'ai jamais à orienter le travail d'un dessinateur. Je répartis les espaces dans le journal entre les dessinateurs, mais ce n'est pas moi qui vais faire leur boulot et ce n'est pas moi qui vais déterminer les thèmes qu'ils vont traiter. Les dessinateurs sont suffisamment autonomes et on fait suffisamment confiance aux dessinateurs pour qu'ils soient un peu leur propre rédacteur en chef. C'est plus un boulot de secrétariat de rédaction, de qui fait quoi, à quel endroit. Voilà.
Ouais, mais tu te sens pas dans le pouvoir?
Bah, ça me dérange pas d'avoir plus de pouvoir et de l'exercer, sauf que j'ai pas l'occasion de le faire.
Ouais.
Je diriger le monde, j'aimerais bien.
Oui, quand même.
Ouais. Le journal.
Non, l'univers. Enfin, tu vois.
Oui.
Maître du monde. D'autres questions? On va peut-être passer au débat suivant. Donc,
J'ai vu la discussion tourner autour du fait de rendre le métier de dessinateur de presse respectable. Mais est-ce que le risque, c'est pas en cherchant à rendre respectable le dessinateur de presse, de le priver de son arme principale qui est quand même l'irrévérence? Faire du dessinateur de presse un métier respecté, est-ce que c'est pas l'enfermer précisément dans une forme de respect qui le privera?
C'est le problème qu'évoquait Camarade tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une exposition de dessin de presse organisée par Debré à l'Assemblée nationale, est-ce que le dessinateur de presse doit se sentir flatté de ça? Je suis pas sûr. En même temps, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance nationale. On en parle au journal de 20h. D'un coup, le dessinateur de presse devient important en France, le temps d'une exposition. Mais dans la mesure où les politiques adoubent le dessin de presse, est-ce qu'on est encore crédible dans notre expression de contestation, quoi? Oui, la question se pose.
La respectabilité, entre guillemets, c'était pour le métier. C'est-à-dire, quand on reçoit un dessinateur, on le respecte dans ce qu'il fait, dans ce qu'on lui laisse faire. C'est à ce niveau-là où je parlais de respectabilité.
Mais c'est vrai,
entre
que
guillemets.
Je comprends
c'est,
ce que veut
pas,
dire.
Pas des médailles. Hein.
Je comprends ce que veut dire François. Je me suis aperçu de ça. Quand on travaille à Charlie Hebdo, évidemment, on est dessinateur et c'est un journal de dessin. Du coup, on est respecté, on se respecte les uns les autres et on existe. Mon expérience, ma courte expérience à la télé, ça apprend aussi l'humilité, parce que le dessinateur, en tant que dessinateur de presse à la télé, j'étais vraiment la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire, d'une part, j'étais le moins payé de tous les intervenants de la télé, Et entre la personne qui parle à l'antenne et celui qui dessine dans l'ombre, il y a un univers. On n'est pas traité du tout de la même manière. Pas du tout, du tout. J'étais un bouche-trou, et très content d'avoir un trou à boucher, mais j'étais absolument pas essentiel à la marche de l'émission. Or, le moindre technicien est essentiel à la marche de l'émission, sinon il n'y a pas d'émission. Et moi, j'étais le truc en plus. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il n'y a pas une... On n'est pas traité à égalité avec les autres professions.
Moi, je pense que la Légion d'honneur qu'on a donnée à Roletsky, c'est la première à son récipiendaire, mais je ne crois pas que ça honore beaucoup la profession, hein, entre nous.
Bah, je ne crois pas que Volinsky l'ait fait pour honorer la profession. Hein. Je crois qu'il était content d'avoir une décoration à lui tout seul. Et en tout cas, il ne l'a pas accepté au nom de Charlie Hebdo, hein, je vous rassure.
Je voudrais juste dire une chose que je ressens par rapport à la place du dessin en France. Je pense que le dessinateur est toujours considéré comme un petit gamin qui fait rire.
Oui, oui.
Et c'est l'écrit qui prime, oui, et l'écrit qui est reconnu et qui est respectable, et, etc. Et dans d'autres pays, c'est complètement différent, notamment les pays anglo-saxons, oui, où là, l'image, le dessin a toute valeur. Quoi.
Ouais, c'est peut-être ce qu'on va voir maintenant avec le débat avec Odile Conseil qui va peut-être venir. Petite question de Guillaume Doisy.
J'aurais voulu poser une question autant à Charme qu'à Faujour. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser une question à Faujour. Je voudrais savoir si vous vous considérez comme des militants, et si oui, des militants de quoi? Parce que Faujour travaille à Rouge, par exemple, et quels sont ses rapports avec Rouge? C'est trop long? D'accord, désolé. Je retire.
Non. Enfin, oui et non. Non, parce que quand je fais un dessin militant, c'est-à-dire un dessin commandé par, je sais pas, un syndicat, par un parti politique, et que je le fais gratuitement, et que je le fais pour que ce syndicat ou que ce groupement politique ait plus de voix, par exemple, ou ait plus d'audience, je suis militant. Quand je fais un dessin qui parle de politique, ou même un dessin qui peut paraître engagé, mais que je suis payé, et si je suis payé pour ça, je ne me considère pas comme un dessinateur militant. Je n'ai pas l'impression d'être militant dans Charlie Hebdo, dans la mesure où c'est mon travail d'être militant. Je ne pense pas qu'on puisse être un fonctionnaire du militantisme ou un salarié du militantisme. Et un même dessin qui paraît dans Charlie Hebdo, par exemple, et qui paraîtra gratuitement dans un tract de la CGT, il sera un dessin militant dans le tract de la CGT parce que ça sera publié gratuitement, alors que ce n'est pas un dessin militant dans les colonnes de Charlie Hebdo. C'est éventuellement un dessin engagé ou un dessin d'opinion, mais ce n'est pas militant. Pour moi, le militantisme suppose quand même une certaine gratuité, un certain engagement, de prendre du temps pour la cause, entre guillemets.
Il faut dire aussi que les journaux qui pouvaient publier des dessins militants ont disparu. Enfin, il y avait chaque parti avait plus ou moins son journal. Le Parti socialiste avait un journal où il y avait beaucoup de dessinateurs. Je sais pas. Tout à l'heure, tu citais Minute. Minute aussi, il y avait beaucoup de dessinateurs de droite et d'extrême droite. Maintenant, il y a de moins en moins de presse d'opinion. Donc,
et puis c'est tellement la dèche dans le dessinateur de presse et dans le dessinateur de presse politique que Rouge, le journal de LCR, est obligé d'embaucher un dessinateur pas trotskiste.
C'est-à-dire Faujour. Et qu'il devient de jour après jour. Bon, on va peut-être passer au prochain débat pour justement élargir au dessin dans le monde.
Merci.